Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Eh bien, c'est la deuxième partie de cette émission spéciale consacrée au 61e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Et dans cette deuxième tranche de l'émission, nous allons parler de l'éducation. Que faire pour relever le système éducatif congolais 61 ans après? Nous allons recevoir tout à l'heure le ministre de l'enseignement supérieur universitaire, Mohindo Nzangi. Des questions et préoccupations, composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Vous pouvez également réagir sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Marcel Ngombon Balakeba assure la coordination de cette émission que réalise Tatima Poukou. Jody Daniel au micro, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie de l'émission Okapi Service.
Okapi Danse. Okapi Danse, c'est la découverte de nouveaux talents, de nouveaux sons des Congolais d'ici et d'ailleurs. De mercredi à vendredi, à partir de 23h et le samedi à 21h.
Bien, vous êtes à l'écoute du magazine Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons parler du système éducatif congolais, comment relever le système éducatif congolais 61 ans après l'indépendance. Eh bien, comme nous le savons, Nelson Mandela a dit que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est ce que nous a dit Nelson Mandela. Alors, en RDC, la situation de l'éducation est peu reluisante, selon certains pédagogues. Et si un grand nombre de diplômés d'universités bien formés a fait son apparition depuis l'indépendance, aujourd'hui, l'enseignement a montré ses limites. Alors, que faire pour redynamiser le secteur de l'enseignement en République démocratique du Congo, 61 ans après l'indépendance? Eh bien, nous allons en parler dans quelques instants avec notre invité qui vient de faire son entrée dans ce studio. Il s'agit du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Monsieur Mohindo Nzangi. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, appelez déjà au 081-890-63-94.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons recevoir nos invités. Le ministre n'est pas seul. J'ai annoncé que nous accueillons aujourd'hui le ministre Mohindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur. Et il est accompagné de Monsieur Lofembe Benkenya Beke, voilà, qui est conseiller scientifique au ministère de l'enseignement supérieur universitaire, parce que le ministre va nous quitter dans quelques instants à cause de son agenda très chargé. Alors, Monsieur le ministre, j'ai dit tout à l'heure que Nelson Mandela a dit ceci, que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Aujourd'hui, quel état des lieux vous pouvez faire de l'éducation 61 ans après l'indépendance?
Il faut dire que notre éducation, la République démocratique du Congo a été pendant beaucoup de temps l'un des pays les plus puissants de l'Afrique. Le pays où le système d'éducation était parmi les meilleurs de l'Afrique. Et il faut le dire que juste après l'indépendance, nos intellectuels étaient parmi les plus réputés de l'Afrique. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons encore des intellectuels très réputés. Mais l'histoire de notre pays a été marquée aussi par des événements malheureux qui, malheureusement, ont impacté la qualité de l'éducation et de l'enseignement dans notre pays. Que ce soit au niveau du primaire, au niveau du secondaire, au niveau technique, notre qualité d'enseignement aujourd'hui a baissé. On ne peut pas s'élérer. Et donc l'état des lieux que nous faisons, c'est un état des lieux à demi-teinte. Après l'indépendance, nous avons eu des états où c'était glorieux, où les étudiants avaient des bourses, les gens étaient bien sélectionnés, ils étaient bien formés dans de bonnes écoles. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où le niveau d'éducation ou la qualité de l'éducation a baissé. Et donc, tout ça, ça impacte si la société. Ce que Mandela a dit, c'est correct. Il y a même quelqu'un d'autre qui a dit, je ne sais pas c'est qui, que si vous voulez tuer un peuple, tuer seulement son éducation.
Éducation.
Vous aurez tout. Vous avez vu, par exemple, que il y a des mentalités. Le fait que même dans notre système d'éducation, il y ait des déviations. Il y a des mentalités que nous avons commencé à acquérir qui sont en fait des mentalités destructrices. Puisque si les gens ne sont pas bien formés, si la qualité de l'enseignement n'est pas là, si on n'existe pas si l'éthique au niveau de l'éducation et de l'enseignement, effectivement, on a une société qui ne marche pas bien.
Mais je me souviens, à l'époque, on parlait même des évolués qui dans ces pays. Après l'indépendance, on parlait des évolués dans ces pays.
Mais imaginez-vous les instituteurs d'avant, c'était déjà formé dans des écoles normales, qui n'avaient pas fait beaucoup de formation. Mais il faut voir la qualité d'enseignement qu'ils faisaient, la discipline qu'ils imposaient dans les salles. Comparé à aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a un problème. D'ailleurs, c'est pour ça que le chef de l'État insiste que pour nous tous qui avons été nommés comme ministres du secteur de l'éducation, nous devons tout faire, essayer de mettre les bases pour qu'on revienne à la qualité d'enseignement d'antan. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de vouloir faire au niveau du supérieur, au niveau du primaire, secondaire et technique. Tout va être fait pour qu'on revienne à la qualité de l'enseignement que nous avions depuis longtemps.
Alors, quelles sont les causes qu'on peut identifier, les causes qui sont à la base de cette dégradation de l'enseignement que nous déplorons aujourd'hui?
Bon, les causes sont restées les mêmes. C'est dans tous les secteurs. On ne parle pas seulement de l'enseignement, mais l'absence de l'État ou la faiblesse de l'État, le fait que l'État n'a pas bien encadré les enseignants à une certaine période, le fait que les conditions même de travail au niveau de l'enseignement se sont dégradées, il n'y a pas de livres, il n'y a pas de matériel didactique, il y a plus de suivi pour le recrutement même des enseignants, c'est devenu du clientélisme. Aujourd'hui, maintenant, au niveau de secondaire même et du supérieur, il y a des pratiques porteuses d'antivaleurs qui sont entrées dans l'enseignement.
La vente des syllabus.
Avec obligation, le fait de dire aux gens que si vous avez acheté les syllabus, vous avez déjà réussi. les points sexuellement transmissibles. Voilà. Le clientélisme dans les recrutements. Les points, les cotes qui sont obtenus, pas parce que vous avez réussi, mais parce que vous avez fait telle autre faveur. La corruption et tout ça. Ça détruit, ça continue malheureusement à détruire la qualité de notre enseignement dans le pays.
Alors, après 61 ans d'indépendance, le bilan, disons que dans l'ensemble, on peut le dire mitigé ou négatif?
Il faut qu'on dise négatif, puisqu'il y a eu un temps où c'était positif. Il faut le reconnaître. Et à un certain moment, le pays est entré dans une turbulence que vous connaissez, malheureusement qui a duré longtemps, et des pratiques déviationnistes sont devenues des règles. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut dire négatif, mais ce que nous avons comme ambition, c'est de voir comment poser des bases pour qu'on redevienne, sur les bases normales d'enseignement, notamment essayer d'améliorer la qualité de l'enseignement. Ça veut dire qu'il faut créer des conditions pour que les enseignants, par exemple nous, et c'est là où je vais introduire le credo ou la vision que je voudrais apporter au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons axé notre travail sur cinq axes majeurs.
Cinq axes, lesquels?
Et le premier, c'est l'aboutissement de la réforme. Puisque vous savez que notre système d'enseignement est resté le même système que nous avons été de la colonisation, un système qui n'avance pas. Nous produisons aujourd'hui des diplômés qui deviennent tous des chômeurs, ou vous pouvez produire quelqu'un à l'ISTA Hein? Mm-hmm. Mais pour commencer à faire le travail, il doit aller encore à l'INPP pour apprendre comment faire le travail. Donc, on doit réformer notre système d'enseignement pour l'adapter aujourd'hui à l'environnement actuel des choses. Ça veut dire
qu'à un moment, on parlait du système LMD qu'on a.
Et c'est ça.
Introduit.
La réforme qui a été introduite par la loi cadre sur l'éducation nationale, ce système impose au niveau des supérieurs le système LMD. Et là, le parachèvement de cette réforme que nous avons fait comme la première action, c'est-à-dire que nous allons tout faire pour que dans les échéances pour lesquelles le parachèvement était prévu par la loi, nous puissions y arriver. Et donc, je peux vous dire que nous avons donné dans notre restriction académique 022 des dispositions pour que les institutions se préparent à recevoir dès l'année prochaine un arrimage presque systématique à ce système de LMD, puisque nous devons le faire. La loi nous y oblige et nous devons le faire pour le bien de nos enfants. Pour que la formation que nous donnons au niveau du supérieur soit une formation technique qui oriente les gens directement vers la profession qu'ils vont devoir faire. Le deuxième point que nous allons essayer de faire, c'est la promotion des valeurs. Il y a la lutte contre les antivaleurs, comme on le dit, puisqu'on ne peut pas améliorer la qualité de l'enseignement au niveau supérieur. Si on ne travaille pas sur l'éthique, c'est-à-dire que tous ces actes porteurs d'antivaleurs, nous avons dit, nous allons les combattre, c'est comme ça que vous avez suivi, nous avons dit, il n'y a pas plus question d'acheter obligatoirement des syllabus et on va donner des instructions supplémentaires pour que les gens qui vont devoir les faire, nous puissions les sanctionner. Plus question d'acheter des interrogations, plus question d'acheter
les TP,
plus question d'acheter des examens.
On a même les examens
achetés. Plus question d'acheter des comptes. Nous allons devoir donner à la disposition de tous les étudiants un numéro du ministre. Ils peuvent l'atteindre à tout moment
pour dénoncer.
Et nous allons sanctionner. Les gens doivent les savoir. Nous allons sanctionner les gens.
Alors le troisième axe,
c'est les infrastructures. Nous avons les infrastructures que nous avons héritées de la colonisation sont restées pratiquement les seules infrastructures pour nos étudiants.
Ce qui fait que alors que le nombre des apprenants
a augmenté, on a augmenté le nombre d'options, de facultés, et ainsi de suite. Et nous voulons essayer de stimuler les institutions par des partenariats public-privé pour que les institutions puissent construire ou réhabiliter les infrastructures qui existent. Parce que les enfants étudient dans les bonnes conditions. On sait que ça ne va pas être facile, mais les étudiants payent. Les étudiants payent pour la construction et nous voulons que cet argent qu'ils payent soit capitalisé, soit rationalisé pour que de manière progressive, nous puissions commencer à mettre les bases pour mettre les infrastructures adaptées à l'enseignement supérieur universitaire. Il y a la question des conditions sociales des travailleurs.
Ça, c'est votre quatrième axe.
Nous voulons à tout prix
le social.
Essayer de booster le social. On sait que c'est une question très compliquée sur le plan budgétaire.
Et on a même appris qu'il y a aujourd'hui dans notre pays la fuite des cerveaux. Beaucoup d'experts congolais sont partis ailleurs à cause du social.
La fuite des cerveaux, puisqu'apparemment on les paye mal. Et nous, on aimerait. Lorsqu'on parle des conditions de travail, il n'y a pas que les salaires.
Ça englobe beaucoup de choses.
Nous allons essayer avec le professeur de discuter sur les questions d'assurance santé, puisqu'il faut bien soigner le professeur. On va essayer de discuter avec le professeur comment améliorer les conditions de logement. On va essayer de discuter avec le professeur comment améliorer leurs conditions de travail. Déjà, nous avons proposé au premier conseil des ministres l'insertion de la prime de recherche. Et nous sommes en discussion avec le ministre du budget pour que cette prime de recherche qui a été votée par les conseils des ministres puisse être d'application. Et notre dernier point, c'est la numérisation des services académiques au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. C'est très important pour nous. Vous savez, nous sommes restés presque le seul pays au monde où au niveau des universités, nous continuons à utiliser les systèmes classiques et systèmes manuels et nous voulons informatiser et numériser l'ensemble des services pour qu'à partir de l'inscription
Ça peut se faire en ligne. Hein?
Ça se fait en ligne.
Oui.
La programmation des cours, ça se fait en ligne. Que les étudiants aient accès à un certain nombre de formations. Les bibliothèques en ligne, qu'on les mette à disposition des étudiants. Qu'ils aient des cartes qui leur permettent d'avoir un accès à tous les services auxquels ils sont, qu'il y ait une traçabilité en ligne des paiements, des enseignants, qu'il y ait une traçabilité pour tout. En tout cas, le programme, nous avons réuni déjà, on a nommé conseiller du numérique, c'est qui est la première, et il a travaillé avec des experts congolais pour mettre en place un logiciel qui va être utilisé dans les universités, dans les études supérieures, pour que tout se fasse en ligne, tout soit transparent.
Même des cours par vidéoconférence.
Même des cours par vidéoconférence, ça nous éviterait tout ce que nous avons comme surpeuplement au sein des auditoires.
Des auditoires. Ouais. Alors, nous avons on va recueillir les questions des deux auditeurs et puis nous allons vous laisser partir, monsieur le ministre. Hippo Moulenda nous appelle depuis Kamana, dans la province de la Lomami, et Jérémy Mwamba est à Lubumbashi. Hippo Moulenda, bonjour.
Oui, bonjour à Radio Okapi, bonjour Claudie.
Quelle est votre question?
Plusieurs travaux de fin des cycles universitaires du rapport d'inspecteurs et autres experts éducatifs attestent assez d'à propos que la baisse du niveau d'acquisition scolaire est devenue un des défis éducatifs majeurs de notre temps et devait cristalliser toute notre attention comme éducateurs que celle des dirigeants. Et à la base de ces mots se trouve en la politisation de notre système éducatif. Ce qui s'est passé dernièrement lors du dernier recensement général des écoles avec la création des écoles fictives en un an, de deux, la sous-qualification du personnel, et trois, la sous-rémunération, quatre, le manque de programmes nationaux d'enseignement, matériel didactique ou autres manuels de cours, cinq, le surpeuplement de nos salles de classe. Il y a des salles, ici chez nous, vous trouvez dans une classe, il y a 80 élèves, 90 élèves. Représentez-vous le travail de cet enseignant devant
un tel groupe. Alors, quelle est la question que vous adressez à l'invité Hippo Moulenda?
L'invité, quelles sont les mesures? Parce que les mots, nous le savons déjà. Quelles sont les mesures concrètes, les dispositions concrètes en termes de réformes déjà entreprises et à impact visible qui puissent faire changer
la situation? D'accord, merci. Jérémy Mwamba de Lubumbashi, bonjour.
Aujourd'hui, bonjour également à l'invité. Je pense que ce secteur d'éducation vraiment est presque grippé. Alors, il faut vraiment les soigner totalement parce que il vous souviendra que vraiment, lorsque nous essayons de voir depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à ce jour, quand nous parcourons pour voir l'histoire, on se rend compte que les choses vont de mal en pis. Ça ne va pas, monsieur. Je vous dis, c'est le cas de le dire. Parce que, il vous souviendra, quand vous regardez juste au niveau supérieur et universitaire, seulement, au jour d'aujourd'hui, posez la question aux professeurs pour leur dire, est-ce que réellement les défenses ou la défense auxquelles nous assistons aujourd'hui, c'est de la complaisance, monsieur Jody. Donc, il n'y a pas de l'objectivité dans les choses. Je peux vous le dire, vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, vous trouvez il y a des plagiats de toutes formes, mais on veut avoir un élite congolais aguerri.
Jérémy Mwamba, tout ça c'est connu. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? 61 ans après, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation-là?
Oui, je voudrais que pour redynamiser réellement les choses, il faut vraiment que l'État congolais, via les ministères de tutelle, que ce soit le ministre au niveau primaire, celui qui est en charge les niveaux primaires secondaires et celui qui est en charge les niveaux supérieurs universitaires, qu'il puisse s'y atteler, voir qu'est-ce qui manque aux enseignants pour que les choses redémarrent. N'est-ce pas là les conditions sociales qui sont presque oubliées? Et deuxièmement, est-ce que réellement ils ont eu le temps de pouvoir créer des écoles que l'État n'a pas? Est-ce qu'ils ont eu le temps de compétir avec des grandes universités qui sont en train de prendre de l'ascendance sur notre pays, un pays qui avait des valeurs, mais aujourd'hui c'est presque en dégringolade totale.
Merci. Merci Jérémy Mwamba. On va donner la parole à Christian Mwamba de Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à monsieur les ministres.
Brièvement, Christian, nous... quelle est votre question?
Ok. Moi, je voulais m'atteler sur certaines choses concernant notre enseignement du pays. C'est vraiment à un niveau trop bas. C'est pourquoi je voulais suggérer au ministre de tenir vraiment en compte sur certains éléments tels que informatiser les choses pour qu'il y ait vraiment une traçabilité. Et puis, j'ai suivi le ministre en train de parler qu'il va faire les efforts pour mettre un numéro là pour commencer à dénoncer certaines choses qui se passent dans certaines institutions. Mmh. Et je demanderai au ministre de ne pas parler seulement, mais qu'il mette ça en pratique. Parce que lui est au bureau en train de travailler, il ne sait pas ce qui se passe dans des institutions. Qu'il fasse vraiment une ronde, qu'il puisse s'enquérir de toute situation qui prévaut dans les institutions. Si aujourd'hui il y a la corruption dans certaines institutions du pays, c'est parce que les enseignants ne sont pas bien payés, et puis les enseignants, ils donnent cours dans des situations, dans des conditions là précaires, ce qui fait que on ne parvient pas à donner un enseignement de qualité. Aujourd'hui, les étudiants qui sortent dans des universités de la République démocratique du Congo ont un niveau trop bas.
D'accord,
c'est
merci.
Pourquoi j'ai demandé oui. que notre ministre s'implique, oui. qu'il use de son droit de s'impliquer D'accord. pour que les choses marchent.
Merci. Ça ne va pas dans ce merci. Pays. Merci Christian de Kananga. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Je crois que tous ceux qui ont parlé, effectivement, m'ont renforcé dans ce que j'ai donné comme plan.
Nous avons dit. Votre plan des cinq axes.
La réforme, elle est indispensable. Et le premier, d'ailleurs, il a parlé de baisse du niveau de formation. Il a dit, c'est pas seulement au niveau des universités. Ça commence déjà dès la base. Et d'ailleurs, j'ai dit, dans le cadre de la réforme que nous voulons faire aboutir, on réfléchit dans le cadre des états généraux qui vont être tenus ici bientôt, on réfléchit avec tous les experts pour voir comment renforcer la capacité ou renforcer les critères de sélection des enseignants de maternelle, de primaire et puis de secondaire. Au niveau des ISP, comment mettre une filière qui nous permettrait de former les enseignants de primaire. Puisqu'apparemment, le niveau des diplômés de pédagogie n'est plus suffisant pour pouvoir contenir une formation ou donner une formation de qualité. Donc, on est en train de réfléchir pour que ce que nous allons faire comme réforme au niveau des universités des supérieures puisse avoir un impact aussi au niveau, sur la formation de la base. Et tout le reste, il parle, la numérisation va régler beaucoup de problèmes. La lutte contre les antivalides, puisqu'on ne peut pas faire toutes ces réformes-là si on n'a pas travaillé sur l'homme. On ne peut pas les faire. On ne peut pas comprendre que dans une université, je m'excuse de citer que l'ICC, on ne vende pas de syllabus là-bas, que tout le monde a les syllabus, les enseignants, les mêmes enseignants qui enseignent au public, mais que dans les institutions publiques, ils viennent mettre les prix alors que là-bas, comme il y a de la discipline, on doit travailler sur la discipline, on doit travailler sur les valeurs, on doit travailler sur l'éthique. C'est ça même la base pour que les réformes que nous allons mettre en place soient d'application. Alors, les conditions sociales, on va essayer de faire quelque chose, mais je voudrais vraiment insister. On ne peut pas justifier les antivalaires par les conditions sociales.
Ça ne se justifie pas comme ça.
Ça ne peut pas se justifier. Quelqu'un ne peut pas dire que voilà, j'ai vendu les comptes puisque je ne suis pas bien payé. Il faut arrêter d'enseigner. Si vous savez que ça ne paye pas, que de détruire les enfants, puisque vous détruisez l'avenir du pays. Et c'est pour ça que nous allons insister sur la sanction. C'est ça qui a toujours manqué. Je voudrais que...
Et pour terminer, comment vous voyez le secteur de l'enseignement 5 ans, 10 ans après?
Moi, je crois que je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Avec la volonté du chef de l'État, qui nous met de la pression, nous les ministres, pour dire, je veux des résultats. Je veux que les gens soient bien formés. Je crois que c'est ça qui va nous donner encore un peu plus de tonus pour que nous puissions, nous aussi, à notre niveau de secteur, commencer à imposer des mesures. C'est vrai que ça va être dur, mais on va y arriver. Les conditions sociales, nous n'avons pas de baguette magique
pour changer les choses
pour que les salaires quittent 2 millions à 10 millions, on ne le fera pas. Mais le peu qui sera fait par le budget qui est en train d'être mobilisé, nous devons les capitaliser pour que, au même moment, on travaille sur l'éthique. J'insiste. Vous allez voir dans ces pays, ceux qui volent plus, ce sont ceux qui ont plus un salaire beaucoup plus élevé.
Et c'est eux qui volent davantage.
C'est eux qui volent davantage. Donc on ne peut pas justifier les vols par les moindres salaires. Oui. Vous allez voir des enseignants du primaire qui touchent 230 000 francs, mais qui sont chaque matin.
Ils sont consciencieux, ils sont consciencieux. À leur lieu de travail.
Chaque matin, ils sont au lieu de travail et ils quittent à 18h, ils vont préparer le soir. Alors que ceux qui ont plus, ils détruisent. Donc je crois que c'est ça que nous devons capitaliser. On ne va pas accepter que ce soit justifié par des conditions sociales. Nous allons faire ce travail. Je voudrais que les gens nous soutiennent dans cette lutte contre les antivaleurs pour que demain, nous puissions voir comment améliorer les conditions d'enseignement. Je voudrais terminer par l'assainissement que nous voulons faire de ce secteur ici. On ne peut pas produire des médecins partout. Vous n'allez pas être licencié ou ingénieur de construction navale alors que vous n'avez jamais vu un bateau. Vous n'allez pas être ingénieur ou médecin alors que vous n'avez jamais été à un hôpital. Nous allons lancer une mission de viabilité pour l'ensemble des institutions du pays. Et je vais vous dire...
Il semble qu'il y a des politiques qui, dans leur terroir, là-bas, pour être acceptés par la base, ils installent, ils créent des universités comme ça, qui ne sont pas viables.
Et je sais que ça sera salé. Je sais que ça sera salé, mais on doit le faire si on veut sauver la qualité de l'enseignement de notre pays. En tout cas, on va lancer des missions de viabilité, et les institutions qui ne seront pas viables, nous les fermerons. Moi, je vais les fermer.
À l'époque, le ministre Machako avait lancé une opération comme ça, mais ça a suscité beaucoup de tollé.
Oui, mieux vaut que ça suscite des tollés, mais ça, c'est notre pays. Nous devons enseigner. Si on donne un enseignement qui n'est pas de qualité à nos enfants à nous, le Congo de demain sera sombre. Et moi, je crois que nous pouvons y arriver. Et je suis déterminé, je suis volontariste pour qu'on y arrive.
Bien, monsieur le ministre Muindo Zangi, ministre de l'enseignement supérieur universitaire, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mais vous devez partir à cause de
certaines charges. C'est plutôt moi qui vous remercie. Je vous laisse entre les bonnes mains de mon conseiller scientifique qui va répondre aux questions des auditeurs.
Merci, à la prochaine.
Merci beaucoup.
Bye. l'indépendance, tcha tcha, tous oubliés. Au Kinshasa, tcha tcha, pour Bakini. Au table ronde, tcha tcha, Bagayé. Au Libanda, tcha tcha, tous oubliés.
Bakini,
indépendance, tcha tcha, tous oubliés. Au Kinshasa, tcha tcha, pour Bakini. Au table ronde, tcha tcha, Bagayé.
Et oui, vous êtes sur Okapi, une voix pour tous. Nous parlons aujourd'hui dans cette émission spéciale 61 ans de l'indépendance de la RDC. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous parlons de ce qu'il faut faire pour relever le système éducatif congolais. Comme j'ai cité tout à l'heure, c'est que Nelson Mandela a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Cela veut dire qu'on peut utiliser l'éducation, on peut passer par l'éducation pour changer et transformer le Congo. Alors, à RDC, la situation de l'éducation est peu reluisante, selon certains analystes, les pédagogues. Si un grand nombre de diplômés d'universités bien formés a fait son apparition depuis l'indépendance, aujourd'hui l'enseignement a montré ses limites. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour redynamiser ce secteur et transformer le Congo par l'éducation? Eh bien, nous poursuivons cette émission avec Monsieur Lofembe Benkenya Beke. Il est conseiller scientifique au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Monsieur Lofembe, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission.
Merci beaucoup.
Alors, c'est un plaisir. Nous avons, on a libéré le ministre tout à l'heure. Exactement. Nous poursuivons avec vous. Il a parlé des 5 axes prioritaires pour changer, transformer le secteur de l'éducation. Mm-hmm. Le premier axe, c'est l'aboutissement de la réforme. Alors, dans la réforme, dites-nous qu'est-ce qu'il y aura. On a parlé du système LMD, mais parlez-nous aussi d'autres choses qui sont prévues dans la réforme de l'enseignement.
Écoutez, le processus de réforme a été entamé depuis plus ou moins une bonne vingtaine d'années. Hein, donc, mais à partir de l'un des moments de césure important, c'est la loi cadre de 2014. Qui a prévu un certain nombre de réformes nécessaires à l'amélioration de la condition des conditions de formation, dont la réforme LMD, l'architecture de formation axée sur le LMD. Mmh. Il y a également l'adoption, et ça c'est quand même l'élément transversal, de l'assurance qualité dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. L'assurance qualité, c'est quoi? C'est tout simplement cette démarche qui consiste dans les différentes actions, dans les différentes activités au niveau académique, de s'assurer que la qualité est de mise. Et donc ça va, c'est une dimension transversale dans la mesure où ça va impacter aussi bien la gestion académique, les activités académiques, que la gestion administrative, la gestion patrimoniale et même l'environnement. Vous savez que l'une des grosses critiques qui est faite à nos établissements, c'est l'environnement, l'assainissement de l'environnement. Et donc la question de la qualité est au centre de toutes ces activités qui sont organisées au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire.
Vous avez appelé ça assurance.
L'assurance qualité. L'assurance qualité.
Et comment on va s'assurer que ce qui est donné là-bas sont des enseignements de qualité?
Ben, écoutez, il y a deux dimensions essentielles. Le premier élément sur lequel on peut revenir, c'est qu'il existe aujourd'hui en République démocratique du Congo, peut-être peu de gens le savent, il existe une cellule, une agence nationale de l'assurance qualité de l'ESU, qui a été mise en place sur décret du Premier ministre, sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette agence nationale va travailler en synergie avec des cellules d'assurance qualité qui sont dans les établissements. Et ces cellules vont justement accompagner les comités de gestion, les différentes parties prenantes du secteur, pour que dans toutes les actions qui sont entreprises dans les différents domaines dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on s'assure qu'il y a la qualité. Mais ça, c'est dans le quotidien. Mmh. Et cette qualité va être évaluée. C'est quelque chose qui manque beaucoup dans nos établissements. Il va être évalué au niveau d'abord interne, c'est-à-dire qu'au niveau de l'établissement, on aura des référentiels qui vont nous aider à voir est-ce que cette année nous avons bien fonctionné ou pas. Mais on ne se limitera pas à une évaluation interne. Il y a aussi une évaluation externe qui sera faite par des experts qui viendront de l'Afrique, de l'Europe, du niveau mondial. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde et que nous voulons absolument intégrer en République démocratique du Congo.
À l'époque, on nous disait que l'université, c'est pour les élites. Mais aujourd'hui, c'est devenu un fourre-tout. Au niveau des recrutements, vous verrez que bon, on privilégie, on veut avoir beaucoup plus d'étudiants pour avoir beaucoup plus d'argent. Et on tient plus compte de la qualité, du niveau de ces étudiants, de ces élèves qui viennent pour entamer la formation supérieure.
Oui, mais exactement. Vous savez, c'est un peu ce que disait son Excellence Monsieur le Ministre tout à l'heure. C'est-à-dire, on est passé à partir des années, du milieu des années 70 au début des années 80, d'une dynamique de formation qui est allée de la qualité vers la quantité. Et vous comprendrez très bien que cette question de quantité a une dimension matérielle, financière, où les établissements cherchent à recruter un peu de tout pour permettre aux établissements de fonctionner, vu que l'État, pendant un très long moment, avait démissionné de sa mission de prise en charge des établissements qui ont fonctionné, et on peut le dire encore aujourd'hui, d'une manière un peu privée. Raison pour laquelle, dans l'approche actuelle du ministre d'enseignement supérieur, le but c'est que l'État reprenne sa place de premier partenaire, de premier promoteur de l'enseignement supérieur universitaire pour y privilégier la qualité. Et vous comprenez avec moi que cette question de la qualité au niveau de l'enseignement supérieur, elle est un peu holistique, c'est-à-dire elle touche à tout le secteur de formation. Les élèves qui viennent des humanités ont quelle qualité ? Mais voilà, il faut y travailler d'une manière holistique, comme je venais de dire, mais effectivement, il faut déjà qu'au niveau de l'enseignement supérieur universitaire, un certain nombre de mesures soient prises. Et c'est aussi ça le but du processus de réforme qui doit aboutir. C'est aussi ça le but de la lutte contre les antivaleurs, qui doit pouvoir mettre chacun devant ses responsabilités. L'étudiant doit savoir ce pourquoi il vient à l'université et quelles sont les conditions pour y accéder. L'enseignant doit savoir quel est le contrat pédagogique qu'il a signé avec l'établissement, avec l'État et avec les étudiants. Donc, il y a toute cette synergie d'actions qui vont porter sur une dimension d'abord éthique pour que chacun réalise l'importance de ce pourquoi il est là. Parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un étudiant mal formé aujourd'hui, ben, c'est la catastrophe pour le pays demain.
Voilà, catastrophe pour le pays demain. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à ce sujet? Appelez au 081-890-6394, écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Alors, le ministre a parlé tout à l'heure du système LMD. Quels sont les avantages que ce système offre à notre système éducatif?
Ben, écoutez, le système LMD qui se définit comme étant le système licence, master, doctorat, a comme première qualité qui est le fort de tout système éducatif, c'est de mettre l'étudiant, ou je dirais mieux l'apprenant, au centre de son processus de formation. Le processus d'apprentissage avec le LMD demande à ce que on enseigne autrement, c'est un peu ça le credo, on enseigne autrement, on administre autrement, on évalue autrement. Le but c'est quoi? Le but c'est d'éviter de faire des étudiants, de l'apprenant, un vase vide dans lequel on vient verser de la matière, mais de le rendre responsable de son propre processus de formation. C'est-à-dire que dans le processus d'apprentissage, on doit privilégier beaucoup plus la pratique et un peu moins la théorie. Vous savez qu'actuellement, le processus est l'inverse. Oui. On bourre les étudiants
de beaucoup de théorie, voilà, et il n'y a pas de pratique.
La pratique, elle est moins développée. Et le but aujourd'hui, c'est d'inverser justement cette tendance afin qu'au sortir de l'université, l'étudiant, comme on aime le dire, ne soit pas un quémandeur d'emploi, mais qu'il puisse créer des emplois, qu'il puisse être directement employable dans les bassins de l'emploi et pourquoi pas être lui-même porteur d'idées, d'innovation, de création pour contribuer au développement de la société par le savoir dont il est porteur.
Merci à tous les internautes qui ont réagi sur la page Facebook de l'émission. Au Capi Service, Alain Ali Boula nous dit ceci, il est à Demba, au Kassai Central, pour redynamiser le secteur de l'enseignement, de l'éducation à RDC, l'État congolais doit d'abord améliorer les conditions de vie des professionnels de la CRE, et voilà, tout sera réglé, d'après lui. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Ben, écoutez, je crois que l'expérience nous a montré que c'est un très beau raccourci. C'est un très beau raccourci de dire, une fois que les conditions sont améliorées, tout va bien.
Voilà.
Mais la question fondamentale qui se pose est une question d'éthique et de déontologie. Vous savez, on prenait l'exemple tout à l'heure. À une certaine période, il y a une bonne vingtaine d'années, presque pratiquement une vingtaine d'années, le professeur était à un salaire extrêmement bas, qui était très miséreux. Il y a eu des augmentations progressives qui ont été faites jusqu'à ce jour. On ne dit pas que la situation est au meilleur de ce que l'on attend, mais elle est quand même meilleure. Mais certaines pratiques n'ont pas été abandonnées. Certaines
pratiques, malgré cette amélioration,
ces efforts d'amélioration. Donc, prendre le raccourci des conditions de vie est un peu simpliste. La situation, elle est beaucoup plus complexe et elle nécessite que l'on travaille vraiment sur l'homme. L'homme formateur et l'homme à former. Donc voilà, ça c'est un peu la réaction. Oui, les conditions sont l'un des aspects, mais ce n'est pas le seul aspect sur lequel il faut que l'on se tienne pour améliorer la situation.
Clément nous appelle des Kananga et Justin depuis Arou. Clément, bonjour. Clément, vous êtes à Kananga, bonjour. Il n'est plus là. Justin depuis Arou, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachama, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la radio Capi.
On vous écoute Justin.
Merci beaucoup, je suis très content de notre thème du jour monsieur jeudi, de notre système éducatif. J'aimerais demander à notre invité par rapport au système éducatif congolais. Vous voyez que nous, le fait que nous faisons beaucoup les copier-coller, hein, le système européen, nous amenons ça ici et nous appliquons ça, parfois ça ne colle pas. Pourquoi seulement nous voulons utiliser chaque fois le système européen, soit la Belgique, et nous appliquons ça, et parfois, moi je vois que ça nous crée des confusions. Ça, c'est la première question. Par rapport maintenant à la deuxième question, monsieur Jody, nous, vraiment, les Congolais, je vois que nous ne sommes pas développés. Pourquoi? Parce que, moi, je vois que les universités, on pense que les universités sont celles qui sont seulement à Kinshasa. Mais nous qui sommes de l'intérieur, ne sommes pas avantagés à certaines choses. Mais entre autres, lorsque je dis que non, il y a d'autres universités, on doit instaurer le système d'Internet, mais ici chez nous, nous qui sommes de l'intérieur, nous sommes un peu écartés de cette histoire. Et quand on dit, par exemple, pour la recherche scientifique, ça demande quand même avoir une disponibilité de l'Internet. Et quand on nous disponibilise ça, je vois que ça nous crée un peu de confusion, monsieur Jeudi.
D'accord, l'invité va répondre à ça tout à l'heure.
Oui, pour terminer, monsieur, je n'ai pas encore terminé.
Allez-y rapidement.
pour terminer, monsieur, par rapport à l'applicabilité et à l'applicabilité de nos enfants, vous voyez, il y a un enfant qui termine, il trouve soit la licence, soit le diplôme de graduat, mais s'il part pour la pratique, en tout cas, on voit qu'il n'y a rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos enfants, nos ressortissants de l'université, soit de l'humanité, vous voyez, même un enfant qui trouve le diplôme, mais un enfant ne connaît même pas écrire une demande d'emploi. Mais vous vous demandez, est-ce que cet enfant a passé au bas de l'école ou quoi? Et maintenant, je ne sais pas quel système que le ministre, avec sa suite, il peut instaurer pour que les systèmes éducatifs congolais soient vraiment comme celui de l'époque, parce que pendant la période des Belges, vous voyez que nos aïeux, mon papa, quand il parle français, je suis très content de la façon dont il parle.
Et à l'époque, le papa n'avait pas fait de grandes études, comme c'est le cas aujourd'hui, mais vous sentez la qualité.
Oui, j'ai ça, la qualité de l'expression que papa parle français, des Belges, en tout cas, ça me fait du joie.
Merci Clément.
Je ne sais pas, monsieur Jubi.
D'accord.
L'invité, en tout cas, elle peut répondre à toutes mes préoccupations.
Il va répondre à vos préoccupations, merci. Oui, Justin, merci, vous êtes à Arou. D'accord. Justin n'est plus en ligne. Sur Facebook, Eminent Mwanda nous a écrit depuis le Sud Kivu, à Bukavu. Il dit le Congo, pays indépendant depuis bien des années, à peine 61 ans, depuis le 30 juin 1960, avec un défi majeur dans les systèmes éducatifs où les travailleurs cherchent le diplôme et les diplômés cherchent le travail, un signal fort mettant en berne l'éducation congolaise qui, au demeurant, avait une grande valeur en Afrique. Pourquoi pas au monde. L'éducation précoloniale, la RDC a connu de l'avalanche, mais la corruption et la politisation de celle-ci a baissé l'efficacité éducationnelle, d'où l'urgence de restructurer ces secteurs de l'éducation nationale au lieu de former les illettrés intellectuels. C'est ce que nous dit Eminent Mwanda depuis Bukavu. Monsieur Lofembe.
Ben, écoutez, d'abord, je tiens à remercier Justin, hein, qui a Harou, qui a posé trois questions fondamentales.
C'est plutôt Clément de Kananga.
Non.
On n'a pas eu Justin.
Ah, on n'a pas eu Justin. C'est, voilà. Ah, c'était plutôt
c'est Clément.
Plutôt, hein, d'accord. Donc, voilà. Donc, effectivement, le copier-coller des systèmes éducatifs. C'est vrai que nous sommes dans un système mondial. Aujourd'hui, il y a des credos, il y a des standards internationaux que tous les établissements, que tous les systèmes éducatifs doivent respecter. Mais l'un des grands défis, et c'est là où je suis d'accord avec lui, l'un des grands défis, c'est comment est-ce que nous nous approprions, comment est-ce que nous inculturons, comment est-ce que nous territorialisons cet ensemble de normes et de pratiques qui se développent sur le plan international. Et ça fait partie justement de l'ensemble des réflexions qui sont menées. Vous savez, c'est depuis 2014, je vous ai dit qu'on a adopté le système LMD, mais pourquoi il ne s'implémente toujours pas? C'est parce qu'il y a encore des réflexions approfondies qui sont en train d'être menées pour faire en sorte que ce ne soit pas un système copié-collé de la Belgique, de la France ou du Canada, mais que ce soit un système adapté à nos réalités propres en République démocratique du Congo. Il a parlé aussi, effectivement, je suis d'accord avec lui, du sous-développement ou d'une impression peut-être réelle d'abandon de l'arrière-pays au profit des établissements de Kinshasa ou des grands centres-villes. Et effectivement, des efforts sont fournis, notamment au niveau du ministère, pour faire en sorte que tous les établissements de l'enseignement supérieur universitaire, qu'ils soient publics ou privés, bénéficient du même traitement de l'État congolais parce que, qu'on soit un étudiant de Kinshasa, un étudiant de Kasumbalesa ou un étudiant de Popokabaka ou dans le secteur privé ou public, tous ces étudiants sont des étudiants congolais que l'État doit prendre en charge. Donc, il y a des efforts qui sont en train d'être menés dans ce sens. D'ailleurs, en ce qui concerne l'Internet, le ministère a un projet d'interconnexion des universités, instituts supérieurs et centres de recherche de toute la République. C'est vrai que ça va commencer par les grands centres urbains, mais avec pour finalité de se projeter progressivement dans les différentes provinces, dans les différents établissements, qui pourront alors interagir et avoir les mêmes accès aux bibliothèques les uns des autres et les différents travaux. Donc, ce sont des efforts et c'est fondamental ce que disait Clément, puisque c'est Clément. Alors, l'applicabilité, disait-il aussi, il voulait parler de la pratique, hein. Qu'est-ce qui est fait pour faire en sorte que les étudiants, au sortir de l'université, ne soient pas que des théoriciens, des parleurs, mais qui fassent effectivement de la pratique. L'effort qui est fourni...
Il dit que beaucoup ont des diplômes, mais ils n'ont rien dans la tête.
Beaucoup ont des diplômes, mais ils n'ont rien dans la tête. C'est justement ce que nous disions tout à l'heure, l'effort de favoriser, pendant la période d'apprentissage, la pratique. Être en faculté de médecine suppose qu'il y ait des cliniques universitaires. Être en faculté polytechnique suppose qu'il y ait des ateliers, des laboratoires, où les étudiants peuvent déjà pratiquer ce qu'ils vont faire dans la vie professionnelle et, bien entendu, favoriser aussi de manière un peu plus tenue tout ce qu'on appelait stage. C'est vrai qu'à un moment, le stage était devenu une formalité, mais le but aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les stages qui sont faits aussi bien dans les sciences humaines, dans les sciences exactes que dans les sciences appliquées, soient véritablement des moments d'apprentissage où l'étudiant est en immersion dans les bassins de l'emploi pour qu'au sortir de l'université, il réponde, n'est-ce pas, aux exigences qui sont rattachées à son diplôme. Et pour terminer, un peu par rapport à ce qu'Eminent a dit,
la politisation de l'enseignement.
Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, avec une sorte de création des établissements à visée électoraliste, nous le savons tous, et l'effort qui est fourni aujourd'hui, c'est de procéder véritablement à
Même pas des professeurs, voilà, qui n'ont rien du tout.
De procéder à un assainissement, d'où la mission de viabilité dont a parlé le ministre tout à l'heure, où il faudra revoir un peu le millier d'établissements que nous avons, voir ceux qui sont en capacité en termes d'infrastructures, en termes de nombre de professeurs, en termes de bibliothèques, etc., d'organiser, et ceux qui ne sont pas en mesure d'organiser. Et après avoir fait cet état des lieux, bien entendu, il y a des mesures qui vont être prises en termes de fermeture d'établissements, en termes de regroupement horizontal ou vertical des établissements, pour faire en sorte que, au finish, le système éducatif devienne compétent et que l'étudiant ne soit pas préjudicié par une mauvaise administration de la formation à tous les niveaux. Donc voilà, ces interventions sont extrêmement intéressantes et participent bien de l'action au niveau du ministère.
Bien, Maître Edmond Bokolo nous a écrit depuis Mbandaka. Il est enseignant à la faculté des droits. de l'université de Mbandaka. Il nous dit que la baisse du niveau de l'éducation est due à la faute de l'enseignant dans la mesure où les antivaleurs telles que la concussion, la corruption, le harcèlement sexuel, les points sexuellement transmissibles font que nos enfants ne veulent plus étudier comme avant. Maintenant, ils savent qu'ils vont passer... Ils vont réussir en utilisant d'autres moyens. Monsieur Lofembe, qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Ben, écoutez, ce que dit Edmond Mbandaka est vrai, hein. Mais vous savez, on dit toujours qu'en termes de corruption, il y a toujours un, il y a toujours deux personnes, hein.
Oui, il y a le corrompu. Il y a deux parties, oui.
Voilà. Il y a le corrompu et le corrupteur. Mais c'est là où son intervention est poignante, c'est que au niveau de l'enseignement supérieur éducatif, il y a un contrat pédagogique. L'enseignant n'est pas là seulement pour transmettre du savoir. Il doit aussi transmettre du savoir être, il doit savoir transmettre du savoir-faire. Et c'est là où vous comprenez avec moi...
Il faut travailler sur l'éthique.
Voilà, où vous comprenez avec moi qu'il ne s'agit pas seulement de transmettre de la matière, de la formation, mais il faut aussi transformer l'homme. Voilà, c'est peut-être ça. Il faut aussi transformer l'homme. Et effectivement, c'est pour cette raison que nous disions tout à l'heure que parler des conditions sociales n'est pas suffisant.
N'explique pas toutes
les dérives dans lesquelles nous nous trouvons. Et c'est pour cette raison qu'en accord justement avec Edmond, que l'axe prioritaire, de mon point de vue, de l'action du ministre de l'enseignement supérieur universitaire porte justement sur la promotion des valeurs qui a comme penchant négatif justement la lutte contre les antivaleurs et toutes les attitudes, les actes ou
les plagiats. Il semble qu'il y a même un docteur congolais qui a plagié le travail, le mémoire d'un chercheur français. Ben, il y aurait même des procès par rapport à cela.
Ben, écoutez, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire a été saisi par écrit de cette situation et le dossier justement en train d'être étudié pour s'assurer que les prétentions dont se prévalent la personne qui dit avoir été plagiée sont réels et tout ça va être vérifié. Et bien entendu, vous savez, il y a
et
des
si
sanctions.
Et si c'est vérifié, ce docteur-là, on va lui retirer son titre.
Il y a des sanctions académiques, il y a des sanctions judiciaires, il y a des sanctions administratives qui devront être prises parce qu'il faut protéger le domaine de la recherche.
On va terminer avec la question de Clément de Kananga. Bonjour Clément.
Bonjour.
Rapidement, quelle est votre question?
Bon, ici... Je suis à Kananga, un chef d'un parti politique du ministre fait le trafic d'influence avec le nom du parti politique. Et le nom du ministre, il pense qu'il peut travailler les mises en place sans les institutions de Kananga avec son ministre. Que dit le ministre à ce sujet? Merci.
Mais il s'agit... Ça se passe dans quel établissement? On a rien comme information là-dessus. Bon, d'accord, monsieur Lofembe.
Monsieur Clément, ayez vos apaisements. Hein. Je pense que la mise en place des autorités académiques est un processus qui est suivi de manière minutieuse au niveau du ministère. Les trafics d'influence, c'est vrai, il peut y en avoir, mais vous connaissez le ministre, vous connaissez... le ministère, vous savez vous adresser au ministère en cas de besoin. Et il vous a même dit que il met en place un système de monitoring qui permet à ceux
mais
qui ont des dénonciations...
Il n'a pas donné les numéros pour
non,
la dénonciation.
On est en train de mettre
vous êtes en train
on est en train de mettre
ça sera
en
un numéro vert, j'imagine.
Je pense, oui, ça sera un numéro vert qui recevra toutes les doléances dont celle que monsieur Clément vient de nous transmettre et que nous allons étudier. De toutes les manières, Clément, je vous invite à nous contacter pour nous dire quels sont les problèmes que vous avez et on va fournir un effort pour vous apaiser. Merci beaucoup.
Alors, pour élever la situation, ça peut nous prendre combien d'années, à votre avis?
Écoutez, je ne sais
ça
pas.
Ça prendra le temps que ça prendra.
Ça prendra le temps que ça prendra. J'ai l'impression que c'est un peu pessimiste. Mais disons que, on doit commencer.
Le plus
important, c'est de commencer.
C'est de commencer d'abord.
Et nous allons avancer.
Bien, Monsieur Lofembe Benkenya Beke, conseiller scientifique au ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Merci.
Un tout grand merci à vous. C'est
et
avec
déjà,
plaisir.
Bonne fête de l'indépendance.
Bonne fête de l'indépendance à vous et à tout le peuple congolais, et particulièrement ceux du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire et de l'éducation.
Bien, bonne fête de l'indépendance à tous les auditeurs de Radio Okapi. Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Okapi Service, merci de nous avoir suivis. À la prochaine.